Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, on célèbre bien notre 70e épisode. Comme à chacun de ces comptes ronds, c'est l'occasion pour l'équipe du comptoir et pour moi, qui l'anime toutes les semaines, de vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, de vous remercier très sincèrement. Ça y est, voilà, j'ai personnellement l'impression qu'on entre enfin dans la cour des grands, dans une certaine forme de maturité dont nous pouvons, toutes et tous, nous féliciter. Qui dit épisode 70, en revanche, signale que nous sommes déjà au 20e épisode de cette saison 3 sur les 25 épisodes prévus habituellement. L'épisode 75, qui marquera la fin de la saison, donc la pause estivale de l'émission et puis mon départ de ce cher podcast, ce sera l'occasion de nous servir des derniers verres au comptoir, mais nous ne manquerons pas de vous en dire plus à mesure que nous nous rapprocherons de ce numéro 75 qu'il faudra célébrer comme il se doit. Alors, en attendant, pour cet épisode 70, nous vous proposons une mouture un peu différente de la structure habituelle en débat de l'émission. Vous l'entendez peut-être sûrement même à la qualité différente de ma voix dans ce studio de fortune, pour reprendre l'expression d'Aubry. Et à vrai dire, effectivement, je suis chez moi et sur mon téléphone pour enregistrer, car entre les rendus, les candidatures à divers trucs, le mémoire et le festival Écran Mix, c'était trop dur pour nous de maintenir un enregistrement classique cette semaine. Rendez-vous donc est pris pour la semaine prochaine pour nous entendre parler de Marty Supreme, car oui, ça arrive, et aussi pour répondre à l'un de nos auditeurs qui avait un retour à nous faire sur l'émission sur les Brutus. Pas d'enregistrement classique donc, mais pas question de déroger à notre rythme, d'autant qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'Élise, que vous connaissez pour être notre vénérée vice-présidente à Transistor, la productrice de l'excellente émission de philosophie ornithologique Artir d'elle, et évidemment une chroniqueuse déjà passée plusieurs fois à cette tribune du comptoir. Élise, donc, elle m'écrit le 1er février dernier. Coucou Louis, coucou Élise. J'ai commencé à écrire des chroniques sur les films que j'ai vus pendant le festival Télérama et je me demandais si ça pouvait faire l'objet d'un hors-série du comptoir. J'ai pensé appeler ça le festival Télérama en toute décontraction parce que c'est des chroniques inspirées de mes notes à chaud. N'en dis pas plus, Élise. C'est avec plaisir que je te laisse le micro, d'autant que toi tu as pu enregistrer en studio, que je te laisse le micro donc pour parler de deux films français que tu as choisi de programmer pour ce 70e épisode. Sans plus attendre, on t'écoute sur un film à côté duquel nous étions passés, il y a 2 mois, à sa sortie, À pied d'œuvre de Valérie Donzelli.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode consacré au film À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, adapté du roman autobiographique du même nom de Franck Cortès. J'ai eu la chance de le voir en avant-première dans le cadre du festival Télérama qui s'est déroulé entre le 21 et le 27 janvier dernier. Alors, je sais que le festival Télérama ça date un peu, pardonnez-moi. Je dis toujours qu'il faudrait une vie pour vivre et une vie pour écrire ce que l'on a vécu, mais bon, ce n'est pas le cas. Alors mes chroniques arrivent un peu tard et j'en suis désolée. À pied d'œuvre, c'est l'histoire d'un photographe qui a réussi à s'installer dans le game des photographes et qui gagne bien sa vie. Il est marié, a 2 enfants et mène un train de vie bourgeois. Sauf que le problème, c'est que la photo, ça commence à l'ennuyer. Et lui, ce qu'il veut, ce qui le passionne, c'est écrire. Par chance, il est publié chez Grasset. Mais malheureusement, être écrivain, même publié dans une maison d'édition réputée, ça ne nourrit pas son homme. Adieu mode de vie bourgeois et appartement de 100 mètres carrés en plein cœur de Paris. Adieu femmes et enfants qui préfèrent vivre loin de ce père en voie d'appauvrissement. Bonjour précarité, galère et petit boulot. Le film ne montre pas le avant-après de l'activité de photographe du personnage principal. L'histoire commence quand Bastien Bouillon, a.k.a. Paul Marquet, vend ses appareils photo et prépare son déménagement après son divorce avec sa femme, jouée par Valérie Donzelli. Il est en mauvaise posture car il a déjà dépensé toute l'avance donnée par Grasset et en plus, son éditrice n'est pas convaincue par son nouveau roman. Pour trouver le temps d'écrire sa prochaine œuvre, Paul Marquet emménage dans un studio prêté par une amie de ses parents et refuse de prendre un emploi à plein temps qui l'empêcherait d'écrire. À la place, il s'inscrit sur une plateforme à mi-chemin entre gens de confiance, Uber et Vinted, pour faire des petits boulots à droite à gauche afin de gagner sa vie. Il devient une sorte d'homme à tout faire, d'auto-entrepreneur de lui-même, qui n'a rien d'autre à vendre que ses mains, et c'est pas facile, car la concurrence est rude. Sur la plateforme, les jobbers répondent aux demandes d'aide en fixant eux-mêmes les prix, ce qui les tire vers le bas. La famille et les connaissances de Paul ne comprennent pas ses choix, le jugent très très fort et lui reprochent d'avoir choisi la pauvreté. Il voit son mode de vie comme une sorte de caprice d'artiste en mal d'inspiration. Le décor est planté. Maintenant, voilà ce que je peux en dire. Je trouve que le sujet choisi est rare et important. Il fait directement écho aux discussions qu'il y a eu récemment à l'Assemblée nationale autour des droits sociaux de la profession d'écrivain. Le problème, c'est qu'on a encore tendance à considérer que les artistes vivent de belles idées et d'eau fraîche, que ce sont forcément de riches bourgeois qui planent au-dessus des nécessités matérielles de la vie. Or, et bien souvent, ce n'est pas le cas, et ce film le montre bien. Ce qui est cruel, c'est que les livres de Paul Marquet ont connu un bel accueil critique. Il est auréolé d'un capital symbolique plutôt rayonnant, mais les ventes ne suivent pas. On voit bien là le paradoxe que ce qui sous-tend les maisons d'édition et dont parle Bourdieu dans les règles de l'art, la sphère de l'édition doit, à court terme, chercher les grands succès, le profit et les gros tirages, mais à côté de ça, elle doit également privilégier les œuvres exigeantes si elle veut garder sa réputation, au risque de ne pas vendre beaucoup d'exemplaires. Sujet rare et pertinent donc, abordé par une grande sensibilité par Valérie Donzelli et dans l'interprétation de Bastien Bouillon. Le premier plan s'ouvre devant un mur recouvert d'un papier peint un peu vieillot, quelques bruits sourds, puis une première percée dans ce mur. Dans le trou apparaît le visage de Paul Marquet, en train de défoncer le cloison à coups de masse. Le quatrième mur est brisé, on comprend que c'est lui qui va nous raconter l'histoire. Et en effet, chaque scène est commentée par la voix profonde, monocorde de Paul, qui pose un regard tantôt amusé, tantôt désabusé sur le monde. Le jeu de Bastien Bouillon est très sobre. On le voit faire face à toutes les situations pénibles, voire complètement loufoques, avec beaucoup de résignation. Peu d'émotion sur son visage, sa voix ne s'élève pas contre ceux qui lui demandent des tâches ingrates ou ceux qui ne cherchent pas à comprendre son choix. Il reste de marbre. Et c'est ça, peut-être, qui est bouleversant. La dureté du travail est montrée avec des plans sur les mains abîmées, salies de Paul, sur son corps émacié par la pauvreté, marqué par l'effort ingrat. La sensibilité du personnage passe aussi par son attention aux détails, détails sur lesquels insiste la réalisation. Par exemple, les pieds. Paul raconte que lorsqu'il se rend chez les gens, la première chose qu'il regarde, c'est leurs pieds, pour savoir s'il doit se déchausser ou pas. Donc, dans le film, il y a plusieurs moments où on a des gros plans sur les pieds. En plus de cela, Paul habite dans un entresol, ce qui fait que pendant qu'il est en train d'écrire, il voit des pieds passer devant sa fenêtre toute la journée. Et j'ai bien aimé ce motif car il fait bien évidemment écho au titre « À pied d'œuvre ». J'ai aussi été touchée par les scènes où Paul va voir ses parents et sa sœur, qui ne le comprennent pas. Les paroles assassines sont montrées avec des gros plans sur les bouches et des bruits de mastication de cacahuètes particulièrement insupportables. La fracture entre Paul et sa famille est matérialisée par l'encadrement d'une fenêtre dont le reflet révèle la silhouette de Paul, séparée du reste de sa famille qui fait la vaisselle à l'arrière-plan. J'ai également bien aimé le côté galerie de personnages du film. Paul fait de nombreuses rencontres au fil des missions qu'il doit remplir, ce qui donne du rythme à l'histoire. Les tâches qu'il doit faire sont souvent cocasses, comme par exemple tailler la pelouse à la cisaille, faute d'avoir une tondeuse, et parfois elles dépassent largement le petit job initial, comme quand par exemple il console une jeune fille qui éclate en sanglots dans sa cage d'escalier alors qu'ils étaient en train de déménager un meuble. Je pense que l'un des moments qui m'a le plus retourné, c'est quand Paul se rend chez un client qui lui demande de déraciner les buis de ses jardinières. L'homme habite dans un très bel appartement, au dernier étage d'un immeuble haussmannien. On comprend que lui aussi est écrivain. Et j'ai adoré le travelling qui montre les différentes pièces de ce magnifique appartement, avec les fenêtres en fond derrière lesquelles on voit Paul qui s'affaire et les dizaines de buis qui lui restent à déterrer. Un écrivain se blesse les mains, les salit de terre pour pouvoir subvenir à ses besoins, tandis que l'autre a le temps d'écrire dans sa tour d'ivoire. Je trouve que cette image révèle toute l'ironie cruelle qui sous-tend l'histoire. Et je comprends d'ailleurs pourquoi le film a reçu le Mostra du meilleur scénario à Venise, même si je dois avouer que j'ai trouvé la fin un peu cliché. Paul finit par publier un nouveau livre, à pied d'œuvre, qui n'est rien d'autre que l'histoire que l'on a vue se dérouler devant nos yeux. Donc à la fin, en quelque sorte, la boucle est bouclée. Cela fait tout à fait sens, car le roman de Franck Courtès, dont est adapté le film, est autobiographique. Mais bon, j'ai quand même trouvé que la fin manquait un peu d'originalité. Voilà, cette chronique touche elle-même à son terme. Je vous recommande chaleureusement d'aller voir ce film, il en vaut le détour. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique dédiée au Festival Télérama.
À bientôt et même à tout de suite, Élise, puisqu'on te retrouve après la virgule pour parler de L'inconnu de la Grande Arche. La magie du prêt à diffuser.
Bonjour, bonsoir les cinéphiles. Dans ce deuxième épisode consacré au film du Festival Télérama, j'ai choisi de vous parler de L'inconnu de la Grande Arche, réalisé par Stéphane de Moustier, adapté du roman La Grande Arche de Laurence Cossé. C'est un film que je suis très contente d'avoir vu au cinéma. Il y a des films comme ça pour lesquels l'expérience est sublimée quand on va les voir en salle. Je pense à The Brutalist, bien sûr, je pense à Sirat, que j'ai aussi vu à l'occasion du festival. Et bien voilà, L'inconnu de la Grande Arche en fait partie. En plus, à 4€ la séance, ça valait le coup d'aller dans les salles obscures. Avant de parler du film, je veux juste vous informer qu'il y a déjà eu un épisode du Comptoir sur L'inconnu de la Grande Arche avec une interview de Stéphane Desmoustiers, réalisée par l'équipe du Comptoir. C'est vraiment super, allez l'écouter. Le film nous projette en 1982, la période des grands chantiers des années Mitterrand. Le président lance un concours d'architecture pour la réalisation d'un gigantesque bâtiment dans le nouveau quartier de la Défense. À la surprise générale, c'est Otto von Sprickelsen, un architecte danois, inconnu au bataillon, qui gagne. Avec une maison et 4 églises à son palmarès, il est un peu moqué par les journalistes à son arrivée en France. Otto est un idéaliste, il rêve de construire son projet de cube en marbre surmonté de nuages de métal. Mais il est contraint de faire équipe avec Subilon, l'administrateur du projet qui a le nez collé sur les chiffres, et Paul Andreu, un architecte pragmatique qui n'aura de cesse de s'opposer à ses ambitions. Ce film raconte l'histoire de la démesure de la monarchie présidentielle mitterrandienne, sapée par le tournant de la rigueur, ainsi que les espoirs déçus d'un rêveur au caractère bien trempé. Honnêtement, j'avais franchement peur de m'ennuyer, car je pensais que j'allais voir un film technique sur un sujet qui ne me parle pas du tout. Moi, l'univers aseptisé bétonné de la Défense, ça ne m'inspire pas trop. En plus, quand il n'y a que des hommes blancs du même âge au casting, eh bien souvent je les confonds et je ne sais jamais qui est qui. La saison 1 du Bureau des Légendes était d'ailleurs un enfer pour moi, pour cette raison. Mais en fait, non, j'ai été surprise par L'inconnu de la Grande Arche, car j'ai vraiment bien aimé ce film, et notamment le jeu des acteurs que je n'ai finalement eu aucun mal à différencier. Claes Bang, qui joue Otto von Sprickelsen, est parfait en génie obsessionnel, un peu froid et complètement habité par son projet. Les acteurs secondaires sont formidables. J'ai adoré le côté pince sans rire, prince pour rire de Michel Faux en Mitterrand. Xavier Dolan est extrêmement convaincant en haut fonctionnaire stressé et un peu lèche-botte. Subilon apporte d'ailleurs une bonne part de comique au film. Et Swann Arlo... Ah, Swann Arlo. J'ai peur de n'être pas très objective car je suis un peu amoureuse de Swann Arlo. Mais il est très bon dans le rôle d'Andreu. Je ne comprends pas pourquoi aucun des trois n'a été couronné par le César du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Il me faut aussi parler de Sidse Babett Knudsen, j'espère que j'ai bien dit son nom, qui joue la femme d'Otto, un personnage que Stéphane Desmoustiers a décidé de rajouter à l'histoire. Il est vrai que l'univers est très masculin, ce qui choque d'autant plus lorsqu'il y a une seule femme au milieu d'une ribambelle de bons hommes autour d'une table de réunion, par exemple. Et je pense que ce personnage a été ajouté pour humaniser un peu celui d'Otto et de souligner le délire de type égotrip dans lequel il entre dans le film, et ça fonctionne plutôt bien. On voit que le personnage n'a pas été rajouté uniquement parce que, oups, mince, il n'y a pas de femme dans le film. Et Stéphane Desmoustiers, peut-être en rajoutant ce personnage, a aussi voulu parler de l'inconnu, de la Grande Arche. Avec The Brutalist, ce film a réussi à me convaincre sur les films d'architecture. Je me suis rendu compte que les grands chantiers, les bâtiments monumentaux et complexes sont un très beau matériau cinématographique. Dans L'Inconnu de la Grande Arche, c'est le cube qui est à l'honneur. Le film est au format carré et il y a des cubes partout. Cube en béton, cube en marbre, cube de poisson, cube de jambon et la tête à Mitterrand dans un cube. Le film met à l'honneur des bâtiments aux formes géométriques pures, courbes lisses et angles droits, d'une architecture moderniste qu'on pourrait dire anti-Undertwasserienne. Le cube a pour auto une dimension quasi métaphysique, et ça le film le montre bien. La pureté du marbre doit faire écho à la pureté de son idée. J'ai d'ailleurs adoré la scène dans les carrières de Carrare, où pareil, il y a plein de gros cubes, et d'ailleurs cette scène, on la retrouve un peu aussi dans The Brutalist. Et puis le moment où le président caresse le morceau de marbre d'un blanc éclatant que lui a ramené Otto m'a complètement hypnotisé. Stéphane de Moustier a vraiment bien réussi à transmettre la beauté magnétique que peut contenir un matériau brut. On comprend aussi pourquoi ce film a reçu le César des meilleurs effets visuels et des meilleurs décors. Une chose qui m'a surprise, c'est que le film était parfois drôle. Xavier Dolan y fait pour beaucoup, c'est vrai, mais il y a aussi des scènes très cocasses avec Michel Faux en Mitterrand, quand par exemple il sort en Tsum Tsum en plein Paris pour vérifier si le projet de l'arche est bien aligné avec l'axe historique de Paris, ou quand il marche sur les plaques de marbre avec ses bottes toutes boueuses pour vérifier que celles-ci ne glissent pas. Je ne m'attendais pas à rire devant un tel film, et j'en suis agréablement surprise. Maintenant, j'ai envie de répondre à ces gros aigris de l'émission Le Masque et la Plume de France Inter, en défendant le film sur plusieurs points. Pierre Murat, par exemple, dans cette émission, loue le film en disant qu'il est sanctionné du label qu'il appelle « La Qualité France ». Un scénario très bien ficelé, des acteurs excellents et une réale propre font la teneur de ce label. Il loue le film, certes, mais pour ensuite le descendre, en disant qu'il est tout à fait oubliable. Bon, je comprends pas trop ces montagnes russes de la critique, et puis je ne suis pas d'accord. La preuve, j'écris cette chronique plus d'un mois après l'avoir vue, et je ne l'ai pas oubliée. Et toc. Je ne suis pas assez devin pour savoir s'il marquera la grande histoire du cinéma français, mais personnellement, c'est un film que je reverrai avec plaisir et que je conseille souvent autour de moi. Jean-Marc Lalanne, lui, a été gêné par, je cite, « le côté insituable de la position de Stéphane Desmoustiers par rapport au conflit qu'il expose. On sent qu'il admire l'idéalisme et la radicalité de l'architecte, mais en même temps, il montre comment il va dans le mur sans concession. De mon côté, je préfère quand le réalisateur arrive à présenter une véritable complexité insoluble dans les conflits qu'il expose, plutôt qu'une pâle binarité manichéenne. Ça permet de montrer les véritables dilemmes qui existent dans la réalité entre le respect du projet et sa réalisation concrète. La vie, finalement, c'est ni tout noir ni tout blanc, c'est un nuancier de gris, comme la colorimétrie du film. En plus, ça ouvre les débats post-séance, et moi je trouve ça toujours cool. On peut voir un peu une continuité entre À pied d'œuvre, si vous n'avez pas entendu le premier épisode sur À pied d'œuvre, je vous recommande d'aller l'écouter, et L'Inconnu de la Grande Arche. Deux films français adaptés de romans qui ont pour personnage principal un artiste plein d'idéaux brisés par les dures lois de la réalité. D'ailleurs, la fin tragique de L'Inconnu de la Grande Arche est magnifiquement accompagnée par le tuba déchirant sur fond d'orgue hypnotique de la BO composée par Olivier Marguerite. Voilà, vous lire cette chronique m'a redonné envie de voir le film, je ne peux donc que vous le conseiller. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique dédiée à un film du festival Télérama. Au revoir les cinéphiles.
Merci beaucoup Élise et à bientôt, oui, cette fois-ci pour de vrai, avec une prochaine chronique, une troisième de ce festival Télérama en toute décontraction, à entendre dans l'épisode 71 du Comptoir, qui sera comme d'habitude disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. Merci encore infiniment à vous, auditeurs et auditrices, pour ces 70 épisodes d'amour. Et rendez-vous la semaine prochaine pour repartir de plus belle, au moins pour 5 épisodes. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous, et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, bah surtout, n'hésitez pas, même pour 5 épisodes. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma, et vive Transistor.